Et nous retrouvons le journal de la rédaction avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
C'est aujourd'hui que le Parlement se réunit en congrès au château de Versailles pour faire de la France le tout premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse.
Et on s'intéressera notamment aux sages-femmes qui demandent à présent à bénéficier des mêmes garde-fous que les médecins pour pratiquer les IVG instrumentales. Puis on se demandera également où en est le droit à l'avortement dans le monde, dans quel pays est-il menacé, ceux qui l'autorisent appliquent-ils tous les mêmes lois. On posera la question à notre invitée Anne Sénéquier, médecin et co-directrice de l'Observatoire de la Santé mondiale à l'IRIS. Dans un peu moins d'une heure maintenant, s'ouvrira à Paris le procès du déraillement d'un TGV qui avait causé la mort de 11 personnes en Alsace. C'était le 14 novembre 2015. La SNCF et plusieurs de ses filiales y sont poursuivis pour homicide et blessures involontaires. Enfin, l'actualité à l'étranger. On tâchera de comprendre pourquoi le gouvernement haïtien n'a eu d'autre choix hier que de décréter l'état d'urgence ainsi qu'un couvre-feu pour regagner le contrôle de la capitale Port-au-Prince. Mais pour commencer ce journal, je vous propose tout d'abord d'écouter des témoignages rares, ceux de ces jeunes iraniennes qui, depuis la mort de Mahsa Amini il y a près d'un an et demi, continuent de lutter tant bien que mal contre le régime conservateur des mollahs, en dépit de la répression des autorités qui a déjà fait plusieurs centaines de morts. Preuve d'ailleurs que le fossé se creuse entre cette jeunesse et le pouvoir en place. Si les ultra-conservateurs ont certes largement remporté les élections législatives organisées vendredi dernier, l'abstention, en revanche, a battu des records, 59% à l'échelle du pays selon les chiffres officiels et même jusqu'à 75% à Téhéran d'après plusieurs médias locaux, la plus faible participation électorale en 45 années de République islamique. Or, le refus chez les femmes de porter le voile reste justement l'un des symboles de cette discorde. C'est un reportage signé de notre envoyé spécial Timur Özturk.
Sur une place d'un quartier aisé du nord de Téhéran, Farah marche dans la neige. Ses cheveux bruns, bouclés, ne sont pas recouverts par un voile, un acte politique risqué.
Cette liberté n'existe pas. Il faut que j'ai toujours un foulard sur moi, au cas où je serai arrêtée.
Justement, une patrouille passe dans la rue et Farah lâche un rire nerveux.
Ah, regardez là-bas, une voiture noire de la police anti-émeute vient de passer. Les patrouilles de la police des mœurs, c'est terrifiant. Quand 5 ou 6 agents t'encerclent soudainement, s'en prennent à toi, c'est extrêmement angoissant.
Dans ce quartier chic, des musiciens jouent pour les passants qui flânent entre les cafés, les musées et les librairies. Ici, plus de la moitié des jeunes femmes que l'on croise dans la rue ne portent pas le voile. Pourtant, la République islamique d'Iran l'impose aux femmes. Étudiante à l'université de Téhéran, Daria, alors à peine majeure, a manifesté contre en 2022 et connu la répression.
Moi, j'ai été très active et j'ai fait partie des étudiantes arrêtées. Ça a duré quelques heures, j'ai été retenue dans l'université et j'ai été interpellée aussi quelques fois dans la rue. Je n'arrive toujours pas à parler de ce que j'ai vécu. Comment peuvent-ils être aussi cruels avec leur peuple ?
Elle sort de cours, un voile noir à peine posé sur l'arrière de sa tête. Parce qu'elle est obligée à l'université, dit-elle, avant de l'enlever devant les grilles de la faculté.
Non, je n'ai pas peur. Moi, j'ai osé leur dire ce que je pense droit dans les yeux. Il ne faut pas avoir peur.
Daria rabat une capuche sur sa tête et s'éloigne sous le regard du guide suprême Ali Khamenei, dont un immense portrait domine l'entrée de l'université.
Un reportage à Téhéran signé Timur Özturk. 3 semaines après des élections législatives largement décriées comme frauduleuses, en particulier à l'initiative de la puissante armée pakistanaise, Shehbaz Sharif a été nommé hier Premier ministre. Celui qui avait déjà exercé la fonction de chef de gouvernement jusqu'à l'été dernier prêtera serment aujourd'hui pour un deuxième mandat, lequel s'annonce compliqué puisque pour reprendre ainsi le pouvoir, son parti a dû conclure un accord de coalition avec rien de moins que son rival historique. L'insoutenable désespoir des Gazaouis assiégés, bombardés et menacés de famine. Un nouveau cycle de négociations a débuté au Caire en vue d'une hypothétique trêve entre Israël et le Hamas. De son côté, la vice-présidente américaine Kamala Harris appelle à un cessez-le-feu immédiat et demande expressément aux autorités israéliennes de prendre des mesures pour accroître l'aide dans la bande de Gaza.
C'est l'une des nombreuses conséquences de cette guerre au Proche-Orient qui irradie désormais dans toute la région. L'attaque contre un bateau marchand en mer Rouge perpétré par des rebelles houthis du Yémen en solidarité avec les Palestiniens.
Oui, c'était il y a deux semaines, jour pour jour, le Rubimar, un navire battant pavillon du Belize exploité par une entreprise libanaise, coulait après avoir été frappé par deux missiles balistiques. Son équipage a pu fort heureusement être évacué en lieu sûr. Reste la cargaison, 21 000 tonnes d'engrais combustibles à base de sulfate de phosphate d'ammonium, de sorte que beaucoup craignent à présent une possible catastrophe écologique, sans compter le fioul qui s'échappe du bateau et menace là encore l'environnement. Les précisions de Julie Pietri.
L'inquiétude, elle est liée effectivement à cette cargaison. Plus de 20 000 tonnes d'engrais, azote, phosphate, soufre, engrais assez communs, explique Christophe Logette, le directeur du CEDRE, Centre de recherche sur la pollution des eaux, qui a été sollicité par les Nations Unies pour travailler sur ce naufrage.
C'est un produit qui, s'il est déversé dans le milieu marin, va avoir un effet sur la flore et le développement d'algues. Avec des récifs coralliens qui sont remarquables dans le sud de la mer Rouge, mais dans tout cet espace maritime, et qui peut endommager cet écosystème.
Mais l'effet écologique sera important, dit-il, seulement si la cargaison est relarguée d'un seul coup. Or, pour l'instant, la coque semble tenir. Le bateau, en touchant le fond, ne s'est pas fendu en deux.
La situation la plus probable, c'est que l'engrais se dissolve. Alors, ça se dissout assez lentement comme engrais. Hein, c'est fait pour tenir sur les champs, si je puis dire. Et on va avoir une diffusion qui va être lente, donc une dissolution qui va être importante. Il n'y aura pas de concentration de cet engrais à ce stade.
Christophe Logette, pour le moment, s'inquiète plus pour les hydrocarbures qui ont déjà été relâchés. Une longue traînée noire a été observée près du bateau avant sa disparition. Et à bord, il y a 1000 tonnes de fioul lourd. Des analyses sont en cours.
État d'urgence et couvre-feu.
Haïti, le pays pauvre des Caraïbes, n'en finit plus d'agoniser sous les effets de la crise sécuritaire, politique, humanitaire. Hier, l'évasion de plusieurs milliers de détenus d'un centre pénitentiaire attaqué par des gangs armés a fait au moins une dizaine de morts dans la capitale Port-au-Prince. Depuis jeudi dernier, des bandes criminelles s'en prennent à des sites stratégiques tout en profitant de l'absence sur place du Premier ministre contesté, Ariel Henry, et qu'ils cherchent par tous les moyens aujourd'hui à chasser du pouvoir. Les explications de Marwaman.
La situation s'est rapidement dégradée après le départ en fin de semaine dernière du Premier ministre Ariel Henry pour le Kenya, où il a signé un accord qui prévoit le déploiement d'une mission internationale afin d'épauler la police haïtienne. C'est durant son absence que des gangs ont décidé de s'attaquer à certains sites stratégiques comme l'aéroport international Toussaint Louverture qui a été fermé pendant plusieurs heures. L'objectif affiché, le chasser du pouvoir. Ariel Henry est devenu l'homme fort d'Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Contesté par une majorité d'Haïtiens, il aurait dû quitter ses fonctions début février. Ses opposants le soupçonnent de vouloir se maintenir à son poste et d'instrumentaliser le chaos qui règne dans la capitale pour y parvenir. Totalement dépassé par la situation, la police haïtienne n'a pu empêcher dans la nuit de samedi à dimanche l'évasion de plusieurs milliers de détenus du pénitencier national de Port-au-Prince, attaqués par des gangs armés. Un épisode qui illustre l'anarchie de plus en plus grande qui règne dans la capitale.
170 personnes exécutées en une seule journée, sans même parler des blessés. C'est là l'effroyable bilan communiqué hier d'une triple attaque commise la semaine dernière dans le nord du Burkina Faso, des massacres probablement fomentés par l'hydre djihadiste d'Al-Qaïda et du groupe État islamique qui, depuis 2015, tache de sang toute la région du Sahel.
Vous écoutez France Culture, il est 12h39, c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
La prestigieuse salle du Congrès au château de Versailles s'apprête donc à accueillir un moment d'histoire à 15h30, très exactement, les 925 parlementaires, sénateurs et députés seront appelés à graver dans le marbre de la Constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Alors à 4 jours de la Journée internationale des droits des femmes et au 50e anniversaire du vote de la loi Veil ayant légalisé l'avortement en France, cette réunion dans la résidence des rois, viendra parachever une longue, très longue bataille politique initiée d'abord par la gauche, portée ensuite par les associations féministes et finalement embrassée par le gouvernement, mais pas seulement, puisque même la droite et l'extrême droite, historiquement opposées ou politiquement sceptiques, ont fini par voter majoritairement pour la réforme. Alors l'inscription de ce droit est une chose, reste toutefois la question de l'accessibilité à l'IVG. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour Thomas.
En l'occurrence, aujourd'hui même, les sages-femmes demandent à bénéficier des mêmes garde-fous que les médecins pour pratiquer donc les IVG instrumentales. Plus exactement, elles dénoncent sur ce sujet un décret du ministère du Travail et de la Santé qu'elles jugent restrictif et contre-productif et que le gouvernement, ce matin même, a promis de réécrire.
Effectivement, le cabinet de la ministre Aurore Berger s'y est engagé car le décret paru fin décembre est vu comme un recul par beaucoup. Il prévoit notamment que 4 médecins entourent pour la sage-femme qui pratique une IVG par aspiration et en particulier parmi ces médecins, un embolisateur capable de pallier une hémorragie gravissime alors que sa présence n'est pas toujours effective dans les maternités où l'accouchement est pourtant bien plus à risque qu'un avortement. Pour Chantal Birman, militante féministe, cofondatrice de l'ANSFO, l'association nationale des sages-femmes orthogénistes, ce décret de décembre est inique.
Ça veut dire que on induit que l'interruption de grossesse est un acte dangereux, ce qui est faux. L'interruption de grossesse n'est pas du tout un acte dangereux par rapport à l'ensemble des actes médicaux. Il y a très très peu de complications. Tout acte médical, il y a des complications, mais l'interruption de grossesse fait partie des actes où il y a le moins de complications. Donc là, c'est de l'idéologie. Ensuite, on induit évidemment qu'une sage-femme n'est quand même pas quelqu'un de responsable, puisqu'il va lui falloir 4 médecins et qui nécessitent d'être sous tutelle.
Voilà, donc les sages-femmes pratiquent 80% des accouchements, insiste aussi leur représentante. Elles se félicitent donc de la réécriture promise du décret, mais Chantal Birman prend cette réécriture avec prudence.
L'histoire de la profession de sage-femme me dit méfiance tant que le deuxième décret n'est pas réécrit. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous mettre dedans? Alors, ça sera plus cool, mais je me méfie pour qu'il y ait un petit truc qui montre qu'on est quand même sous emprise, sous contrôle, etc. Or, nous sommes dans la santé publique, une profession médicale totalement autonome et responsable devant la justice de l'ensemble de nos actes.
Rappelons que 4 associations avaient attaqué ce décret de décembre devant le Conseil d'État.
Merci Tara Schlegel. Et que dire à présent de l'accès et du droit à l'IVG dans le monde? Si depuis 30 ans maintenant, la tendance est à la dépénalisation de l'avortement, certains États ont toutefois reculé sur l'accès à l'IVG. Dans quel pays est-il autorisé, restreint ou interdit? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Anne Sénéquier, médecin et co-directrice de l'Observatoire de la Santé mondiale à l'IRIS, l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Bonjour madame.
Bonjour à vous.
Je le disais, la tendance est actuellement plutôt encourageante. Au cours des 30 dernières années, plus de 60 pays ont assoupli leur loi sur l'avortement. Au total, 87 pays autorisent largement le recours à l'IVG, sauf que ce droit reste fragile. Et à ce titre, l'exemple le plus frappant, sans doute, c'est la révocation en 2022 de l'arrêt qui garantissait le droit d'avorter aux États-Unis.
C'est vrai que ça a eu l'effet d'un pavé dans la mare, parce que effectivement on avait plutôt l'habitude d'associer démocratie avec droit et liberté à l'avortement, et en fait on se rend compte que, comme on nous avait prévenu, il ne suffit d'un rien pour que ce droit des femmes soit retiré. Et c'est ce qui a d'ailleurs mobilisé encore plus justement les législateurs en France et les associations féministes pour tenter justement d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Alors, il faut, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que l'IVG, en fait, il fait partie d'un continuum de l'éducation à la sexualité qui va permettre de prendre la bonne décision, l'accès à la contraception, éviter la grossesse, et le droit et la liberté à l'IVG qui permet d'éviter le décès justement d'un IVG non sécurisé. Et la première proposition d'écriture de l'IVG dans la Constitution parlait de l'IVG aussi, mais également de l'accès à la contraception, ce qui a été débouté il y a 2 ans déjà. Donc aujourd'hui, eh bien, on attend et on espère un succès pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution, mais ça aurait été bien aussi de sécuriser l'accès à la contraception.
S'agissant de la législation parmi la plus progressiste, les Pays-Bas autorisent, eux, l'IVG jusqu'à 24 semaines et sans délai de réflexion, ce qui pose immédiatement plusieurs questions sur le rapport des Néerlandaises à l'avortement. Sait-on par exemple si le nombre d'IVG pratiquées y est proportionnellement plus important rapporté à la population comparativement à la France ?
Eh bien en fait non, puisque le taux d'avortement pour 1000 femmes aux Pays-Bas est de 8,8 alors qu'il est 15,6 en France. Mais je pense qu'il faut voir plutôt la société dans son ensemble, et aux Pays-Bas il y a un accès à la contraception qui est très libéralisé et qui est inscrit finalement dans la culture sociétale, une éducation à la sexualité décomplexée depuis des décennies aujourd'hui et qui permet justement d'inscrire le continuum qu'on évoquait tout à l'heure, éducation à la sexualité, contraception et IVG, dans une normalité du discours, dans les familles, dans les écoles, avec les professionnels de santé. Et c'est finalement le fait de ne pas en faire quelque chose de tabou, c'est ça qui va permettre véritablement de limiter ces avortements, parce qu'on voit dans les pays où l'avortement est autorisé, on a 9 IVG sur 10 qui est sécurisé, c'est-à-dire que il y a une demande de l'IVG non sécurisée qui est très faible, alors que dans les pays où l'IVG est autorisé qu'en cas de danger pour la vie de la mère, en fait, c'est un IVG sur 4 seulement qui est sécurisé, donc il y a 75% des femmes qui subissent un avortement dans ces pays-là, qui le font dans des conditions non sécurisées, ça veut dire avec des normes médicales non appliquées, des personnes non qualifiées, des méthodes à risque, qui amènent aujourd'hui encore à ces 39 000 décès par an suite à un IVG non médicalisé à travers le monde.
En Inde, là-bas, l'avortement est légal depuis 50 ans maintenant, sauf qu'il n'a toujours pas été décriminalisé, ce qui fait en réalité de l'avortement une infraction pénale.
Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a une différence aussi entre ce que dit la loi et ce qui se passe sur le terrain. En Inde, aujourd'hui, c'est autorisé pour raisons socio-économiques, c'est autorisé en cas de viol et d'inceste, mais ça ne suffit pas justement si on ne permet pas de travailler la thématique dans la transversalité, et ça veut dire faire en sorte que les lois qui tournent autour de cette thématique puissent être en coordination et coopération pour avoir un véritable accès des femmes sur ces soins. Par exemple, on parle aussi du Népal qui a lui aussi autorisé, fait partie de justement ces 60 pays qui, depuis les 30 dernières années, ont eu des lois plus libérales vis-à-vis de l'IVG. Et malgré tout, malgré une autorisation de la législation, l'accès sur le terrain pour les femmes est toujours très compliqué, du manque des ressources, ne serait-ce que le transport, ne serait-ce que l'accessibilité aussi à l'information, parce que finalement, tant que ça reste un sujet tabou dans la société, dans les familles, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les femmes qui ont besoin justement d'arrêter une grossesse imprévue soient au courant de ce qui se passe dans les politiques de santé.
Merci Anne Sénéquier, co-directrice, je le rappelle, donc de l'Observatoire de la Santé Mondiale à l'IRIS, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Pierre Chabert pour la préparation.
Le procès du déraillement de la rame d'un TGV d'essai qui avait causé la mort de 11 personnes en Alsace doit s'ouvrir aujourd'hui à Paris.
Oui, c'était le 14 novembre 2015. 53 personnes avaient pris place à bord pour un ultime test du tronçon de la nouvelle ligne à grande vitesse est européenne avant que le train ne déraille, percute un pont et bascule finalement dans un canal de la Marne au Rhin. Des images spectaculaires, même si l'accident n'aura eu à l'époque un retentissement médiatique limité au lendemain des attentats djihadistes de Paris et Saint-Denis. Alors ce procès retiendra-t-il cette fois-ci davantage l'attention? L'audience qui doit débuter dans une heure va-t-elle permettre de sortir enfin ce drame de l'oubli collectif? Seule certitude, Nicolas Ballu, les proches des victimes comme les blessés attendent à présent de la SNCF et de ses filiales qu'elles assument leurs erreurs.
Il est 15h04 au niveau d'Eckversheim, à 20 km de Strasbourg. Le TGV aborde un virage à 243 km/h. Il va trop vite à cet endroit. Il freine trop tard, établira rapidement l'enquête. La motrice avant déraille à l'entrée d'un pont ferroviaire, se couche sur le flanc au bout du pont, dévale le talus pour s'arrêter 150 mètres plus loin, dans le canal de la Marne au Rhin. Les 5 autres voitures se sont désolidarisées. Les 2 dernières déraillent. Le procès qui s'ouvre va tenter de déterminer les responsabilités. Celle du conducteur, un simple exécutant, selon son avocat. Celle du cadre de la SNCF chargé de lui donner les consignes de freinage et d'accélération. Celle de l'ingénieur de Sistra chargé de renseigner le conducteur sur les particularités des voies. Responsabilité également de la SNCF, SNCF Mobilité et de Sistra, le commanditaire des essais. À la SNCF, il est reproché une préparation insuffisante de la rame, un manque d'anticipation des risques, l'insuffisance de communication et de coordination entre les équipes et des lacunes dans la formation du personnel, tout comme Sistra, à qui il est reproché également d'avoir validé la ligne à 330 km/h au lieu de 187 km/h sur la portion de ligne où s'est déroulé l'accident. Un choix qualifié de dangereux, non nécessaire et contraire aux préconisations de l'Agence d'essais ferroviaires.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec un ciel couvert de l'Alsace à Rhône-Alpes ainsi que sur une bonne moitié ouest du pays. Partout ailleurs, le soleil devrait s'imposer. Quant aux températures, elles seront comprises entre 8 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.